Et normalement, c'est parti. On est en direct sur notre flux à nous, pour l'instant.
Ah, donc, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur le flux, sur radio, sur radio.girol.org.
Voilà, donc il faudrait peut-être qu'on ait des gens pour nous dire si ça fonctionne ou pas. Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est une bonne question. Je continue de parler, sinon ça ne va pas être très intéressant. Donc, on a beaucoup de monde chez Girol. Non, on va essayer de ne pas faire de mise à jour ce soir, hein, parce que là, en plus, on teste le double flux.
C'est ça.
Donc là, pour l'instant, on ne stream que chez nous, sur notre serveur à nous, qu'Antoine a bien voulu
De toute façon, à partir du moment où la connexion va tomber, on va couper complètement le Wi-Fi. Donc, ils ont plutôt intérêt à faire attention.
Pour l'instant, tout est ouvert chez moi, donc c'est super. Et je voudrais savoir si quelqu'un pourrait tester notre sortie, enfin, l'arrivée du flux, quoi. Enfin, bref, la radio, quoi. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que je streame pas dans le vide, quoi? Enfin, non, a priori non, mais bon. C'est à vous de me le dire. Vous avez normalement une super appli sur Android qui s'appelle Radio Girol.
Est-ce que je streame pas dans le vide, quoi?
C'est bon.
Ah bah, je streame pas dans le vide, c'est cool. C'est parfait.
Bon, il y a plus. Et tu as lancé le flux chez Oxy.
Alors, je n'ai pas lancé le flux chez Oxy, mais ça va être aussi un test grandeur nature. Et attention, c'est parti. Et hop.
Et du coup, si tu pouvais lancer le flux avec une petite musique, quand même.
Non, je vais lancer plutôt.
La radio.
Et je vais lancer un truc, mais ça part pas. Bonsoir, vous êtes Girol. Je teste en même temps. Je surveille que mes streams ne me pètent pas la figure, mais là normalement on est en direct chez Oxy aussi, hein, voilà. Et je vais faire un truc de malade. Je vais même enregistrer si tout va bien.
Là c'est bien.
C'est parti.
Là.
Moi. C'est bon.
Ouais.
Voilà, donc on fait en même temps des petits réglages, hein, puisque c'est une première.
C'est ça.
Donc.
On est là, techniquement, on est chez qui?
On est chez les deux.
En fait, il faudrait peut-être commencer par lancer un petit jingle.
Je vais essayer. Non,
parce qu'en fait, les gens chez Oxy, vont comprendre ce qui se passe.
Non. Je suis désolée. Je vais essayer de trouver ce qu'il faut.
Écoute, Radio Girol.
Il se passe des trucs bizarres. Hein. Non, là, je sais pas ce que tu fais, mais. Voilà, donc super mal aux oreilles.
Ouais, mais en fait, je comprends pas ce truc de retour.
Moi non plus. Alors bon, j'ai envoyé un jingle, mais on l'a pas entendu.
Et il déconne un peu ce truc.
En fait, c'est tellement fort que ça.
Alors en fait, je pense que c'est peut-être.
Son casque qui est trop fort. C'est celui-là qui est trop fort.
Et ça, c'est le bon espace.
Mais
bon, on fait toujours des réglages. Hein. On est absolument désolé. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la radio là?
Non, pas encore, mais je peux m'y mettre.
Non, surtout pas.
Ça va être un peu moins fort.
Là.
Mais pas en wifi.
Attends, là, je sais plus si. Je crois que j'ai plus grand chose là maintenant.
Attends. Là, mais tu me dis parce que je suis en train de régler.
Bon, voilà, bah, écoutez, on est encore en train de tester. Hein.
C'est mieux. Ouais.
C'est un peu fort encore, mais bon. Ça peut aller.
Ouais, là, toi, je peux te baisser un peu, voilà. Là, tu devrais un peu moins fort, ça devrait un peu mieux. On est tous à peu près au même niveau là, du coup, au niveau des casques.
Ok. Et genre, si je le mets comme ça, ça sera.
Mais ouais, ça fait plus de la recette. On envoie un jingle et on s'annonce.
Mais écoute, le problème c'est que les jingles. Tiens, mais j'ai plus de son moi. Ah, ça y est, non, c'est mon casque qui déconne. Non, c'est mon casque qui doit déconner. Ouais, c'est ça. Alors, je vais réessayer de lancer un jingle. Mais c'est pas gagné.
Écoute, Radio Girol.
Radio Girol.
Ça marche. Par contre, j'ai un vieil écho dans le casque.
Oui, c'est normal, c'est parce que pour que nous, on ait le retour. Bon, bien alors, bienvenue à tous sur Radio Girol. Vous entendez, il y a du brouhaha ici à Bordeaux. Vous êtes tout, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, en direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux pour une émission d'une heure autour des cultures libres et geeks. Et en ce moment, il y a des choses à dire de ce côté-là. Nous allons vous parler ce soir du Fairphone. Vous savez, vous en avez peut-être déjà entendu parler, cette initiative qui nous vient des Pays-Bas, d'un téléphone produit de façon équitable par des entreprises, alors toujours en Chine, mais qui n'exploitent pas des enfants ou qui ne poussent pas leurs employés au suicide. Alors, on ne montrera personne du doigt. Nous allons vous parler toujours d'Android, toujours de téléphone avec Android. On a testé pour vous F-Droid, un marché d'applications libre, alternatif donc, qui ne nécessite pas d'inscription pour pouvoir installer des logiciels. Ça, c'est pas mal. Nous allons peut-être parler un peu de liberté sur Internet parce que il y a des choses à dire en ce moment. Nous vous parlerons aussi de plein d'autres petits sujets. Ça se meublera au fur et à mesure. Déjà, on est ici au centre d'animation Saint-Pierre, comme je le disais, avec Isa. Bonsoir Isa.
Bonsoir Yorick.
Et toujours avec Mathieu, notre spécialiste jeu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Alors justement, Mathieu, tant que tu es là, on laisse dernière ligne droite pour le Humble Indie Bundle numéro 8. Alors vous avez l'habitude, on vous en parle ici souvent sur l'antenne de Radio Girol. Ces bundles de jeux indépendants, puisque c'est le Humble Indie Bundle, multiplateformes qui sont compatibles donc Windows, macOS, mais aussi et surtout ce qui nous intéresse, Linux. C'était le 8e bundle. Il y a des jeux pas mal du tout, comme notamment Hotline Miami. Est-ce que tu as testé toi un peu?
Oui, j'ai pas mal testé.
Alors t'as acheté déjà?
Oui, comme tous les bundles, en fait, je crois que je les ai tous pris. Et c'est vraiment un des meilleurs bundles qui est sorti depuis longtemps. Ouais.
Alors moi je l'ai acheté directement, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai testé pour l'instant que 4 jeux en fait. J'ai testé Timmy and Big in Grandpa's Leftover. C'est un jeu qui a été rajouté par la suite. Comme vous savez, les Humble Bundle ont commencé là avec 6 jeux. Ils en ont rajouté quelques ans après. J'ai testé celui-ci, mais j'ai un petit bug. Alors au niveau graphique, ça marche super bien, même si j'ai une carte graphique Intel et qui le déconseille. C'est fluide, tout ça, mais je n'ai aucune écriture. Donc c'est un peu embêtant. La police ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai surtout personnellement joué à Hotline Miami. J'avais déjà remarqué ce jeu sur Steam. Et vraiment, c'est jouissif. Une bande-son de malade, un jeu violent, voire même ultra-violent. Et un scénario, au début, on ne peut pas s'en douter, mais un bon scénario qui vire dans le psychotique complet. Est-ce que tu as testé, toi, Mathieu?
J'ai testé un peu, ouais. C'est vraiment style années 90, psychédélique. Ouais.
Voilà, ça s'inscrit dans les... Ça ressemblerait à du GTA Vice City.
Plus GTA 2 ou GTA 1.
Voilà, alors des graphismes qui seraient même qui seraient même antérieurs à GTA, au premier GTA, avec une ambiance qui rappelle Vice City, des gros pixels partout, une musique de malade et un jeu de violence inouïe. Moi, personnellement, j'ai accroché, je l'ai fini de ton côté.
Non, j'ai pas joué assez longtemps pour le final.
Et toi, Gaël, est-ce que tu l'as essayé, ce Humble Bundle numéro 8? Tu l'as même pas acheté? Ah, depuis que Gaël va se marier, hein, et il joue plus. Donc, c'était la petite news jeu vidéo. Il y a aussi disponible, notamment, GTS Cheater, mais
pas. Oui, pas très long. Au bout de, je pense que j'ai mis d'heure à le faire. Et là, il n'y a pas de challenge, jamais de l'histoire. Et après, le niveau design, c'est assez sympa. Ça reste intéressant en fait, c'est assez original, c'est pas vraiment un jeu, c'est entre le jeu et le film, mais ouais, c'est assez intéressant quand même l'expérience.
Voilà, il y a Intrusion 2, moi j'avais déjà acheté sur Steam, je possède déjà, qui est un bon petit shoot, alors fait en flash mais qui fonctionne bien sous Linux, un petit shoot 'em up dans l'esprit un peu de des Metal Gear, des Metal Slug, pardon, de la bonne époque sur Neo Geo. Ça bouge bien avec quelques éléments de physique, même si parfois les personnages se sont aussi débloqués récemment sur ce bundle, qui est vraiment pas mal. À noter aussi Capsized, qui est un bon jeu de plateforme action.
Ça m'a fait un peu penser à Waking Mars dans le style, ou en général à des Metroid, choses comme ça.
Voilà, des graphismes très très sympas, très colorés, un très très bon jeu en 2D. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que les arrière-plans bougent. Il y en a des choses qui se passent dans l'arrière-plan. C'est vivant, c'est un jeu qui est vraiment vivant, assez intéressant. Voilà. Le seul point négatif, c'est qu'il manque la bande originale de Hotline Miami, que par contre on peut acheter sur Steam. À noter que dans cette bande originale, hein, il y a quand même Jasper Byrne qui a fait la, si je me souviens bien, la BO de The Binding of Isaac.
Bon, même si j'avais déjà le Symphony 3 qui est sorti sur Linux, j'ai pris parce que comme ça me fait une copie des deux premiers plus le deuxième. Qui peuvent tourner nativement sur Linux si on les installe avec les bons installeurs. Ils existent. Donc ça, c'est une bonne occasion aussi.
Bon, c'était l'actu jeu vidéo. En parlant d'actu, on va juste toucher deux petits mots, mais vraiment deux mots très très courts. On n'a pas pu louper cette semaine le gros bad buzz en direction des États-Unis, à savoir la NSA et le FBI qui ont des portes dérobées ou des accès super utilisateur. On pourrait parler comme ça en tant que...
On va dire, c'est pas comme si on savait pas ou comme si on s'en doutait pas quand même.
Voilà, mais cette fois-ci, ça y est, c'est officiel. C'est officiel. On a sorti des documents, des PowerPoints très pourris d'ailleurs. Et voilà, les USA écoutent... Alors, pour se défendre, ils ont quand même dit... Enfin, le gouvernement a dit, non, on n'écoute pas nos citoyens, on écoute ceux qui sont à l'étranger, personnellement.
Alors, pour se dédouaner, en fait... Obama a dit que non, il n'écoutait pas les conversations elles-mêmes, mais ils avaient accès aux informations. Quand on sait comment on peut connaître plein de choses sur les gens juste en sachant qui ils appellent, qui ils contactent, quel site ils vont voir, etc. Bon, on sait très bien que c'est quelque chose d'extrêmement intrusif. C'est pas la peine d'aller écouter les conversations en elles-mêmes, quoi.
Voilà. Donc, vous utilisez Gmail, Google+, vous utilisez Facebook, vous avez un compte SkyDrive ou vous utilisez Skype.
Difficile d'y échapper, tout ça.
Vous y échappez pas, vous Twitter. Êtes sûrement fiché. Non, Twitter, apparemment, ils sont moins enclins à collaborer. Vos données sont utilisées par le gouvernement américain qui fait des jolis petits dossiers sur vous. En même temps, comme tu le disais, Isa,
C'est pas comme si on le savait pas.
Voilà, on s'en doutait fortement, s'en mais doutait. Maintenant on le sait. Alors, est-ce que l'avenir nous dira si ces révélations...
Alors, il faut dire quand même que les sociétés concernées ont dit non, absolument pas. Sauf que, comme le gouvernement américain a reconnu que le projet Prism existait, voilà, quelque part, ils peuvent pas le faire sans avoir accès à quelques serveurs. Donc,
j'ai pas tout suivi, mais qu'est-ce qu'il y avait comme données qui ont été... dévoilé en fait.
Alors c'est pas des données qui ont été dévoilées, c'est carrément que les organes gouvernementaux et des États-Unis ont un accès VIP au serveur.
En fait, c'est un technicien qui travaillait à la CIA. Il s'est dévoilé et donc il a sorti quelques infos. Mais voilà, après. Il peut pas dévoiler, puisqu'en fait, comme ça cible des gens, il peut pas dévoiler des informations qu'il aurait pu.
Il aurait pu dévoiler les sources, en fait, de quelle source ça vient. Alors, est-ce que ça vient de fournisseurs d'accès?
Moi, je connais pas les détails non plus.
J'ai entendu parler de Verizon.
Voilà, donc, oui, ça c'était la première affaire, en fait.
C'est une
affaire en amont, ça.
Alors, ça, c'est une affaire qui n'est pas vraiment liée, c'est qu'on a appris qu'effectivement, que la NSA avait un accès VIP aux données téléphoniques de l'opérateur Verizon, mais il s'avère que AT&T, un autre grand opérateur aux États-Unis, était aussi soupçonné d'avoir mis en place un accès VIP. Voilà. Alors il faut se méfier aussi parce qu'il y a plein de théories du complot qui naissent en disant que oui, il y a un opérateur qui était très connu aux USA, j'ai oublié le nom, dans les années 2000, qui a disparu parce que justement il ne voulait pas donner accès à leur fichier. À la NSA, et ils en ont profité pour couper les vivres et empêcher cet opérateur télécom à accéder à des marchés publics, ce qui fait que l'opérateur aurait disparu. Enfin, j'ai lu ça très très vite en diagonale, donc il faut pas non plus tomber pour l'instant dans la paranoïa, et maintenant reste à savoir si ça va faire une grosse tache d'huile ou si ça va faire un flop considérable et si d'ici un mois personne n'en parlera plus.
Oui, c'est surtout ça qui serait intéressant de voir, parce que je pense que nous, dans notre milieu, entre guillemets, on est un peu plus sensibilisés à ce genre de choses. Après, c'est passé dans les réseaux mainstream. Qu'est-ce que les gens vont faire de cette info? Est-ce que ça...
Visiblement, ça fait bouger pas mal de monde, quoi. Enfin,
c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est peut-être quelque chose d'assez... comment dire? C'est sensible, quand même.
Oui, tout ce qui touche à la liberté d'expression, voilà. Et tout ça. Enfin, c'est quelque chose d'assez sensible, et même les gens qui sont pas dans la technique, qui qui sont pas intéressés forcément par Internet sont peut-être intéressés par ça.
Voilà, d'ailleurs, en direct, là, depuis mon flux RSS, je vois un PC Impact qui sort un petit article insolite, un designer fâché par le diaporama hideux de Prism. Ça, c'est assez marrant. C'est vrai que
qu'il était assez moche.
Au début, moi, j'ai pensé vraiment à un gros fake parce que quand on voyait ce diaporama, on se dit non, c'est pas possible. La NSA elle a quand même quelques designers capables de faire un truc.
Peut-être que c'est fait justement pour passer inaperçu.
Parce que sincèrement, c'est moche. Vous avez vu quelques captures d'écran sur Internet, vous cherchez Prism, P-R-I-S-M sur Internet, vous allez trouver des captures d'écran de ce fameux diaporama en logiciel propriétaire Made in Microsoft. Il pique les yeux. C'est un coup à devenir aveugle. Donc voilà, c'était la petite news. On reviendra sur ça lors de notre install party. D'ailleurs, on en profite pour faire un peu de pub. Notre install party, notre Girol party aura lieu le 29 juin ici au centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. Venez nous rejoindre si vous pouvez. Il va y avoir plein d'ateliers sympas sur monter, sûrement justement sur s'auto-héberger. Comment se passer de ces services américains pour héberger ses données, se faire son propre cloud personnel, monter son media center, des ateliers autour du web. Peut-être qu'Antoine nous refera une petite historique d'Internet parce que pour ça, il est très doué et ça avait bien marché.
S'il veut bien. Bah, normalement, on devrait le voir ce soir s'il y a un bus qui veut bien arriver
jusqu'à
nous, mais c'est un peu compliqué.
Donc voilà. Alors, l'autre petite news, et on finira par celle-ci au niveau des petites news de du mois, on va dire, parce que c'est tous les mois à Radio Girol, c'est bientôt, là, ça approche, c'est la fermeture de Google Reader. Alors, si vous êtes fervent utilisateur de ce service qui vous permet, je vous rappelle, de se tenir informé de la plupart de vos sites favoris directement, direct, sans aller visiter ces 10 sites, hein, par ce qu'on appelle les flux RSS, les flux de syndication, et bien ça y est, Google Reader ferme au 1er juillet. Donc il est temps de trouver une solution, et c'est là où c'est intéressant, c'est que Framasoft, hein, on le présente plus à tous nos amis francophones, gros site communautaire, grosse communauté formée autour des logiciels libres, avec de la traduction avec Framalang, de plein de services, dont notamment Framapad que l'on a longtemps utilisé pour se caler au niveau des Girol Party. Donc Framasoft sort un petit service qui s'appelle Framanews, qui est basé sur un logiciel libre qui s'appelle TinyTinyRSS, qui est un agrégateur de flux que vous pouvez installer sur un Google Reader-like que vous pouvez installer directement sur votre serveur, et qui vous permettra donc d'avoir un logiciel libre, d'utiliser un logiciel libre qui est hébergé en plus chez Framasoft. Donc je vous rappelle l'adresse framanews.net, si je me souviens bien. Donc un petit tini RSS, donc agrégateur de flux qui permet de s'abonner au site internet et de recevoir du coup les informations, les news, sans aller visiter chacun des sites. Très utile si vous avez une trentaine, une quarantaine de sites comme ça que vous allez visiter régulièrement. Ce petit logiciel est libre et dispose d'une application pour téléphone et tablette Android qui sur le Google Play Store est payante, malheureusement. Enfin, vous avez un essai de 7 jours, mais elle est payante. Hein. Libre ne veut pas dire forcément gratuit. Sinon, vous pouvez trouver l'application sur Internet, déjà compilée, ou sur des marchés alternatifs comme F-Droid, mais on en reparlera un peu plus tard dans cette émission radio. Voilà.
Ok, c'est une super nouvelle, ça. Encore un petit projet Framasoft.
Voilà.
Framaland.
Alors non, c'est pas framanews.net, je sais plus, c'est .org.
Donne-nous la bonne adresse, Yurik.
Framanews.org, voilà.
Framanews.org, je mets ça sur IRC, je sais pas qui s'en servira. Mais...
voilà, c'est TinyTinyRSS, alors moi je l'utilise depuis pas très longtemps, je l'auto-héberge sur mon petit NAS Synology que j'ai à la maison, et je vous avouerai que c'est vraiment, vraiment, vraiment super pratique, surtout quand on lit ses flux dans les transports en commun et sur son ordinateur depuis plusieurs sources. Donc voilà. Voilà, c'est une petite news sympa. Oui, Isa ?
Non, je voulais juste que les gens évitent de télécharger. Voilà. Voilà. J'ai vu un petit stream qui a fait un peu la gueule, mais bon, pour l'instant, ça va. Tout est vert.
Voilà. Je te propose, Isa, de passer une petite musique. On va se préparer au prochain sujet. On va parler Fairphone.
Ok, bon, mais je vais passer un petit jingle.
Et une musique. Et génial.
Une petite musique. C'est parti.
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre.
L'histoire peu commune du poisson nommé Alphonse, errant sous toutes les roches à la recherche d'une réponse, il se dit:
ma foi, si je continue ainsi, je ne trouverai jamais mon paradis. Ma condition de poisson va devenir un calvaire. Je dois trouver un moyen de quitter cet univers.
Et levant les yeux vers son ciel argenté, il vit des silhouettes étranges et brillantes s'agiter. Des signes, langage inconnu comme une invitation. Il ne put résister, s'efforcer à la tentation. Il frétille et palpite quand il voit le filet. Son ennui, il le quitte pour pouvoir s'envoler. Au début, stupeur, il faut s'habituer à cet air. Mais tout le monde sait qu'on doit souffrir lorsque l'on veut plaire.
Et c'est ainsi qu'au lieu de finir sur un étalage, j'ai réussi à séduire tous les hommes de la plage. Ni casserole, ni frigidaire, j'ai évité ce sort cruel pour frayer avec les stars du bocal télévisuel.
On parla donc de lui dans de nombreuses émissions. Bon pour les enfants, prétexte à toutes les promotions. Posant dans les magazines du monde entier, il éclipsa même les vedettes qui ne purent le supporter car... Lui, le bel Alphonse, ce spécimen si solitaire, attira la convoitise. Tout le monde voulut son exemplaire. On se mit donc en quête d'adopter chacun de ses frères. Ce qui aboutit, comme il se doit, à envider la mère. Et même si, par souci de cohésion, on avait fondé pour lui une ligue de protection.
Dans mon bocal, j'ai pas le moral.
Alphonse lui-même l'a reconnu. Trop acheté ou trop vendu, trop vanté, je n'existe plus. C'est déboire du poisson mort dans l'hameçon. Pour sortir, se faire voir n'est pas seulement fiction. Car homme, lama ou loir, si tu veux vivre plus d'un soir, le mieux est encore de le faire sans histoire.
Voilà, de nouveau Radio Girolles, si tout va bien. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tout va bien, ouais, tout ça. Va très bien, Madame la Marquise.
Alors, nous sommes en présence cette fois-ci de Pierre Amiel. Bonsoir Pierre Amiel.
Bonsoir Yorick.
Et de Thomas, bonsoir Thomas.
Bonsoir tout le monde.
Alors Thomas, tu viens de nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, toi qui aimes bien les téléphones et tout ça, tout ça.
Voilà, exactement. J'ai tendance à faire pas mal de veille là-dessus. Et j'ai remarqué un projet là qui est lancé depuis quelques semaines, enfin qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Un téléphone équitable qui est lancé aux Pays-Bas. Enfin l'idée vient du Pays-Bas, c'est le Fairphone. En fait l'objectif de l'équipe qui a créé le projet Fairphone, donc il y a déjà 3 ans, ils ont réfléchi depuis 3 ans sur le projet, c'est de faire un smartphone au maximum équitable, le premier smartphone équitable du monde. Donc le but, c'est de respecter les valeurs sociales quant à la fabrication du téléphone dans différents pays du monde, notamment par rapport à tout ce qu'il y a, tous les conflits qu'il y a eu par rapport à Foxconn, ou les conflits dans les mines de matériaux rares pour la fabrication des téléphones. Donc ils veulent faire en sorte que ces téléphones respectent ces conditions sociales, respectent l'extraction des matériaux dans les mines dans différents pays du monde, et aussi de faire attention au niveau de la provenance, de l'écologie, du transport, etc. pour la fabrication du téléphone.
C'est beaucoup de choses, là, on est sur un truc beaucoup plus complexe que le café, quand même.
Voilà, exactement. C'est un peu le.
En effet, ouais.
C'est un peu la problématique de se dire, est-ce que c'est applicable à un téléphone, le côté équitable. Ce qui paraît quand même difficile quand on voit tous les composants qu'il peut y avoir dans un téléphone.
Ça paraît très surprenant. On se dit, comment ils vont faire, quoi.
Donc, le projet a été lancé il y a 3 ans. Et ils ont décidé de lancer une levée de fonds sur Kickstarter. Donc je pense que si vous connaissez pas Kickstarter, allez jeter un œil. C'est une plateforme de crowdfunding, donc de levée de fonds collaborative. Donc là, en l'occurrence, il leur fallait 1000 modèles minimum pour pouvoir lancer la production. Donc ils l'ont atteint il y a quelques jours. Et
ils l'ont plus qu'atteint même.
Voilà, ils l'ont plus qu'atteint. Ils sont à là actuellement 7405 exemplaires vendus. Sachant qu'il reste encore 2 jours, si vous êtes intéressé, allez-y. C'est vraiment... C'est vraiment un bon projet.
Alors, le truc qui frappe quand même, c'est le prix. C'est pas si cher que ça de produire un téléphone, je dirais, équitable.
Oui. Quand on regarde le prix du téléphone qui est vendu 325€, si on prend un téléphone équivalent avec les mêmes caractéristiques techniques, il reviendra entre 200 et 250€. Donc l'écart est pas énorme pour arriver à un téléphone équitable, finalement.
Oui, parce que...
Vous pouvez rappeler juste le nom du projet ?
Fairphone, F-A-I-R, phone, P-H-O-N-E. Le site, c'est fairphone.com.
Voilà, okay. www.fairphone.com.
Surtout que le téléphone est quand même, est quand même pas trop trop mal. Il y a, au niveau des spécifications techniques, on a un chipset quad-core, on a 1 giga de RAM, me semble-t-il.
Oui.
Un appareil photo 8 mégapixels, qui est déjà vraiment pas mal du tout pour un téléphone. Et Android 4.2. Et c'est voilà. Là où Pyramel va intervenir avec nous, c'est que j'ai quand même lu, alors c'est pas écrit, je sais plus où sur le site, j'ai vu que il prévoyait de faire tourner d'autres systèmes qu'Android dessus et
oui,
de l'ouvrir.
Ce serait bien, par exemple, s'il y avait notre, bon, je sais qu'on est tous plus ou moins fans de Cyanogen, enfin, certains en tout cas ici.
Alors Cyanogen, c'est Android.
Oui, mais il y a quelque chose. De mieux.
De mieux, voilà.
Il n'y a pas aussi FreeBot, non, qui est soutenu par la FSF, il me semble.
Je ne sais pas. Là, par contre, je ne connais pas toutes les...
FreeRunner, OpenMoko, la plateforme OpenMoko, ouais. Mais il prévoit notamment, d'après ce que j'en ai vu, je crois que c'est sur un forum, il prévoit dessus de pouvoir faire tourner assez facilement Firefox OS et pourquoi pas Ubuntu OS.
Oui. Ils sont vraiment sur par rapport à d'autres fabricants, un développement ouvert. Par défaut, il me semble que le téléphone sera routé ou très très facilement routable et permettra d'accepter pas mal d'autres systèmes. C'est aussi le principe du projet.
Voilà. Alors, il prévoit quand même sur ce téléphone de développer une interface graphique, enfin l'écran d'accueil personnalisé qui sera open source aussi, c'est ce qu'ils annoncent sur leur site. Sachant que, à l'instar de Mozilla, de Firefox OS et Mozilla, c'est une fondation qui a derrière le Fairphone, d'après ce que j'ai vu. C'est ce qu'ils en disent notamment sur Wikipédia. Que je retrouve l'info. Supported by the WAG Society, a foundation. Voilà, c'est une fondation qui s'appelle la WAG Society. Alors il n'y a pas trop d'infos sur Wikipédia là-dessus, mais c'est un peu comme Mozilla et Firefox en fait. Donc ça peut être intéressant, c'est que il y a vraiment derrière une vraie volonté de partage et,
oui.
Et non pas une entreprise commerciale qui essaye.
C'est équitable et ouvert. Voilà. C'est ça qui est.
Les deux, c'est bien ça. C'est bien parce qu'on
est ouvert, mais sur l'écran d'accueil, il montre Skype sur.
Ça, c'est pas bien ça.
C'est moins bien, oui.
Ça, c'est pas bien du tout. Surtout depuis qu'on vient d'apprendre que, bon, Skype, en même temps, on savait déjà que Skype, c'était pas génial.
Le protocole n'est pas ouvert.
C'était pas très très bien. Non,
non.
Voilà. Et alors, une petite information intéressante. Le téléphone, donc pour les gens qui ont commandé ou qui vont commander dans les deux jours qui restent, le téléphone arrivera en Europe en octobre. Il sera donné, enfin, les gens les recevront en octobre.
En même temps, apprenez sur Kickstarter à vous méfier des dates. Donc,
oui.
Prévoyons peut-être plutôt janvier.
Voilà, déjà 2 mois de plus peut-être de retard.
Il y a un truc qui me paraît étonnant, c'est que Kickstarter, c'est un projet américain. Et il me semble que pour pouvoir proposer un projet sur Kickstarter, il faut avoir une base juridique aux États-Unis.
Alors là, j'en ai aucune idée.
Parce que c'est pour ça aussi qu'on trouve pas de projet normalement européen sur Kickstarter. C'est parce que c'est normalement purement américain.
Après, Kickstarter a une forte audience dans tout ce qui est projet informatique, on va dire.
Il y a des projets européens, notamment un projet anglais qui s'appelle Light Control Pad, pour lequel j'ai participé au niveau des fonds. Et d'ailleurs, ça fait 7 mois qu'on l'attend toujours. Donc c'est pour ça que je disais, faites attention aux dates. Non, il y a des projets européens qui s'y mettent dessus. Alors je sais pas par quel biais juridique, mais c'est possible. Alors, Pierre Amiel, toi, tu vas nous parler justement de Firefox OS, puisque tu as eu des démonstrations.
Ouais, j'ai eu des démonstrations, et en fait, c'est un peu un propos en forme de troll.
Ah.
Ah. Déjà, je vais commencer par dire qu'on vient de parler de la fondation Mozilla, mais faut pas oublier qu'il y a aussi la Mozilla Corporation, qui est la filiale de la fondation, qui s'occupe du développement et du marketing de Firefox et aussi du coup de Firefox OS. Alors oui, c'était quand j'étais à Montréal, j'ai assisté à un hackathon en fait autour de Firefox OS organisé par Mozilla Canada. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs projets qui ont été développés dans la journée. Alors des choses aussi rigolotes qu'une espèce de Nyan Cat avec un Firefox qui courait. Des choses pour retrouver des pizzerias dans le coin, enfin bon, des choses très basiques, mais en réalité aucun projet n'utilisait l'API de Firefox OS. L'essentiel des projets était développé avec jQuery mobile.
Et
quand on demandait aux développeurs pourquoi ils avaient fait ce choix-là, ils disaient bah vu l'état de l'API de Firefox OS, si on voulait arriver à développer un truc dans la journée, il n'y avait pas trop le choix.
Ah, ça veut dire que l'API est pas finalisée, pas
donc,
du tout.
L'API a l'air plutôt à l'état de prototype assez mal avancé. Et les gens de Mozilla qui étaient sur place n'avaient pas l'air, en tout cas d'après ce que me disaient les développeurs, à même de les aider à dépasser leurs difficultés. Ce qui était assez problématique. Et puis, deuxième chose qui me paraît encore plus problématique sur le fond, parce que là, on peut se dire, bon, l'API est naissante, le projet est balbutiant, ça va se développer, ça va être meilleur par la suite. C'est que finalement, c'est pas si ouvert que ça. Dans le sens où, visiblement, pour pouvoir avoir accès à l'intégralité de l'API de Firefox OS, il faut être enregistré sur une espèce de store. Et pour pouvoir être enregistré sur le store, il faut accepter des conditions d'utilisation, une espèce de contrat, qui indique notamment qu'on s'engage à ne pas développer d'applications pornographiques.
Ah tiens.
Ça fait penser à Apple.
Et donc visiblement, oui, parmi les développeurs présents, il y en avait un dont c'était le gagne-pain, et il était pas très très content, on va dire. Parce que du coup, il pouvait pas faire un petit bouton appeler. Parce que pour pouvoir avoir le bouton appelé, il fallait avoir accès à l'intégralité de l'API. Pour avoir accès à cette partie de l'API, il fallait avoir accepté le contrat. Qui, justement, disait qu'il ne fallait pas
de contenu
pornographique.
Olé, olé.
Ça peut être un téléphone, okay. Ça sert à téléphoner. Quand il n'y a pas de bouton téléphoner, c'est un peu dommage.
Bah là, en l'occurrence, c'était pour faire un espèce de Halo Pass automatique.
Oui. On se doute.
Donc Mozilla se la jouerait un peu à la Apple et cachez-moi ce sein que je ne saurais voir.
J'irais peut-être pas jusqu'à Apple, mais en tout cas, du coup, se pose aussi en censeur des contenus qui sont présents sur la plateforme.
C'est une problématique, donc, effectivement. Donc quelle est leur implication juridique à ce niveau-là ? On ne sait pas. Enfin, c'est peut-être dû à ça. Il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ce genre de plateformes, quels sont leurs devoirs et leurs obligations? Est-ce qu'ils sont obligés, sur certains pays en tout cas, comment ça marche? C'est une bonne question.
Oui, mais on pourrait envisager que certes, ils n'acceptent sur leur store que les gens qui ont signé le contrat, mais qui donnent accès à l'intégralité de l'API, y compris aux gens qui ne sont pas sur leur store.
C'est pas faux, oui, tout à fait. Enfin, moi, je me pose la question de pourquoi ils l'ont fait, en tout cas. Pourquoi ils sont partis dans cette censure-là du type Apple?
Oui.
Ça, c'est une question. Personne ne leur a posé la question ou ça a été motivé
Si, enfin, les réponses qui ont été données étaient plutôt des réponses du style que le projet était encore en cours d'évolution.
Est-ce que justement, le fait de couper court à la pornographie permettrait pas à la Fondation Mozilla et à Firefox OS de mieux rentrer dans des pays émergents avec une législation extrêmement difficile à ce niveau-là, ou extrêmement, rigide?
C'est possible, mais je pense qu'il y aura très peu de téléphones qui vont livrer, on va dire, un Firefox OS vanilla, quoi. C'est comme les Android qu'on trouve, en général, ils ont été transformés par les fabricants de téléphones ou par les opérateurs. Du coup, on pourrait très bien imaginer que ce soit aux opérateurs nationaux d'appliquer la législation nationale de leur pays à ce niveau-là, quoi.
C'est un peu l'objectif de Firefox, ouais, c'est d'être vendu dans des pays à bas coût en s'adaptant aux contraintes locales, aux opérateurs locaux, etc.
Est-ce que justement, c'est pas un moyen déjà dès le départ, même avec une version vanilla, de montrer un peu patte blanche auprès des gouvernements de différents pays de pays en voie de développement ou de pays émergents, en évitant de se faire mal voir, parce qu'effectivement, s'ils se coupent l'accès à ces pays-là, ils se coupent l'accès tout court à un marché, parce que c'est de prime abord, c'est leur marché de prédilection. Ou c'est avec ce marché qui compte, je pense, commencer pour pouvoir ensuite débarquer avec des terminaux plus haut de gamme dans les pays européens, États-Unis, Japon, Corée.
C'est une théorie intéressante. Il faudrait demander aux gens de la fondation ou de la corporation.
Bon. Mais sinon, si tu as pu voir, est-ce que ça paraît fluide, bien fini,
Alors le truc, c'est qu'en plus, les démonstrations qui étaient faites n'étaient pas des démonstrations faites sur un téléphone, mais sur un émulateur de téléphone. Donc c'est difficile de juger de la fluidité des choses, mais vu les démonstrations, enfin les applications qui étaient présentées, ça ne pouvait être que fluide, sinon ce serait vraiment inquiétant.
Bon, il ne nous restera plus qu'à tester ici Ubuntu Phone, un système Ubuntu pour...
J'ai vu un téléphone fonctionnant sous Ubuntu Phone.
Un vrai téléphone, c'est
un vrai téléphone fonctionnant sous un vrai Ubuntu Phone.
Et alors
Le truc, c'est que visiblement, il y a encore pas mal de parties de l'OS qui sont en état de mock-up. C'est-à-dire que c'est des images qui simule quelque chose et en fait il y a rien derrière, quoi. Comme par exemple sur l'écran d'accueil, il y a une espèce de rond qui est censé présenter les tweets qu'on a en attente,
les notifications.
Comme ça. Les notifications, mais pour l'instant c'est juste un JPEG.
Ah. Bon.
C'est un prototype. Mais...
voilà. Et par exemple les applications, l'application Twitter, c'est juste un lien vers vers le site de Twitter.
D'accord.
Donc, mais sinon ça a l'air intéressant parce qu'on peut vraiment avoir accès. Il y a un vrai Linux quoi derrière. On peut vraiment travailler, il y a accès à une vraie console, donc je pense que c'est peut-être plus intéressant pour les développeurs et pour un usage avec plusieurs types de matériel que Firefox OS qui vraiment est axé sur le web et sur un développement exclusivement en HTML5, alors que là on a vraiment possibilité de faire des développements en Qt ou voilà. Avec des interfaces de graphique classiques. Quoi.
Sachant que oui, c'est du Qt, du QML, et donc il y a une possibilité pour les développeurs de pas être limité par l'API.
C'est ça, exactement.
Bon, merci beaucoup. Je propose qu'Isa nous passe une petite musique et on va passer au sujet suivant.
Je peux rebondir sur quelque chose par rapport à Firefox OS. Il y a deux téléphones Firefox OS qui sont vendus depuis quelques temps par Geekzone, qui est un vendeur espagnol. Ils en ont remis en vente aujourd'hui. Ils proposent deux téléphones.
Intéressant pour un OS qui se refuse d'être olé olé.
Voilà. On peut faire des genoux là-dessus, effectivement. Et il y a déjà eu des retours par rapport au téléphone et à l'OS. Et il y a pas mal de blogueurs qui disaient que les premières personnes qui vont utiliser Firefox OS, qui l'utilisent en ce moment, essuient des plâtres. Parce qu'on voit que c'est encore un OS jeune qui est prometteur, mais on est vraiment dans les débuts. Il y a des bugs sur des choses assez simples.
Je vous renverrai. Alors, si des gens ici à Girol sont intéressés, je peux leur mettre à disposition des téléphones sous webOS. On peut dire que c'est la même. C'est le
même principe.
C'est le même principe. Ouais. Moi, j'ai trouvé webOS extrêmement prometteur. Un système qui était fluide, bien fichu, qui était joli, agréable à utiliser. Mais effectivement pas fini et ça donnait des trucs relativement bizarres, un navigateur qui refuse de se connecter même alors que c'était un système qui avait déjà un peu plus vécu, voilà. Et je pourrais limite avec l'âge, enfin avec le temps d'utilisation, limite comprendre pourquoi HP a abandonné ce système, parce qu'il nécessitait des développements assez conséquents, même encore, hein, c'est un système qui a 3-4 ans WebOS et qui souffre quand même de pas mal de lacunes, et notamment une lacune qui est très importante pour ce système, qui, je rappelle, WebOS utilise WebKit et non pas la plateforme Gecko Xul. C'est le manque cruel de développeurs WebKit qui sont vampirisés par d'un côté Google pour Chrome, Chromium, Chrome OS et tout ça, de l'autre côté Apple pour Safari. Donc voilà. Alors, c'est peut-être pas la même chose avec la fondation Mozilla.
Oui, c'est le même moteur, ils n'ont pas le même.
Voilà. Quoique, c'est peut-être difficile de trouver à l'heure actuelle sur le marché des ingénieurs de développement au niveau du téléphone, parce que c'est pareil. Il y a énormément de systèmes qui se préparent sur téléphone. Et notamment, il y a BlackBerry, là, qui bouge pas mal. Il y a un autre OS, c'est pas Mego, c'est la suite de Mego.
Mère?
Je sais plus,
Tizen
par Samsung. Il y a Samsung qui aussi monopolise un peu des gens sur Bada. Donc, je pense que c'est pas facile, ouais. Facile. Et
ouais, puis il y a Windows Phone.
Ça marche, ça? Voilà. Faut préciser que Firefox, justement, par rapport à Android, évite la surcouche supplémentaire. En fait, il y a la surcouche, donc tout ce qui est driver du téléphone, etc., le lien matériel. Il y a directement après les applications développées HTML, CSS, JavaScript.
Exactement comme WebOS.
C'est très rapide. Ça permet d'avoir des téléphones peu puissants et qui permet de faire fonctionner pas mal de programmes.
Exactement comme WebOS.
Voilà.
Mais qui souffre du coup aussi des lacunes d'un langage qui doit être interprété et non pas. Qui n'est pas compilé.
Mais quelque part, c'est une universalité. Ça permet aux développeurs de faire des applications à bas coût dans d'autres pays que les pays européens.
C'est exactement ce qu'avait sorti HP à l'époque et qui n'a pas. C'est pour ça que je reste quand même très prudent, mais qui n'a pas très bien fonctionné, parce qu'il disait oui, développer des applications pour HP WebOS, vous utilisez un framework JavaScript qui s'appelle Enyo et Enyo 2 qui disait super machin, et au final vous pourrez effectivement le porter très facilement sur d'autres plateformes, ce qui s'est vu puisqu'on a vu des applications HP WebOS passer sur iOS assez facilement, puisque c'était en plus du WebKit de chaque côté, mais c'est pas vraiment fait, donc il faut peut-être, bon, avec les difficultés qu'a mis en lumière Pierre Amiel. Moi, je me méfierais, je pense que je vais tester, parce qu'il faut tester, mais oui. Je me méfierais effectivement de Firefox OS.
De toute façon, ils ne visent pas du tout le même marché. Ils sont plus sur les marchés émergents, des téléphones à une centaine d'euros.
Notamment l'Azerbaïdjan.
Ou le Brésil.
Non, parce qu'il y a le Bakou, tu vois. Ils font des applications à Bakou. L'Azerbaïdjan, non.
Bon, je propose qu'on passe une petite musique.
Après cette petite blague.
C'est parti, vous écoutez toujours Radio Girol sur Oxy Radio et on revient après une petite pause musicale.
Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre.
I'm a red robot. I'm a red robot. I'm a red robot. I'm a red robot. I'm a red robot.
Et nous voilà de retour au centre du direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. J'ai un peu de mal ce soir. Hein.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Donc, on reste avec Thomas et Pierre Amiel. Ouais, personne, ils sont tous déjà occupés, donc personne ne veut parler à la radio ce soir. Donc, on va rester entre nous. Alors, nous allons parler. On va rester toujours dans les téléphones portables. C'est une émission spéciale téléphone portable hein, ce soir. Nous allons parler de F-Droid. Alors, vous connaissez tous le système Android. Hein, je pense que la plupart d'entre vous ont un téléphone équipé de ce système d'exploitation qui, rappelons-le, est développé par Google. Et qui est mis gratuitement à disposition de, du moins assez simplement à disposition.
Je vous interromps, Père Amiel a un nouveau téléphone Android. Ça se fait pas encore. On verra ça dans les années 2016.
Voilà. Alors c'est
un tout petit écran, un truc coulissant.
Voilà, c'est un téléphone de l'année du siècle précédent presque.
Presque. Ouais.
Voilà. Donc un Android système d'exploitation créé par Google mis à disposition plus ou moins gratuitement aux fabricants de téléphones. Et si c'est gratuit, c'est que ils se font de l'argent ailleurs et notamment avec vos données personnelles. Et c'est très simple quand on, surtout que le téléphone est devenu un élément essentiel. De nos vies occidentales avec lesquelles on fait tout n'importe quoi, on discute avec les potes, on a des appels, on va sur internet, on achète, on est actif sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et le but de Google, c'est éventuellement de récupérer toutes ces données que vous utilisez pour pouvoir vous proposer de la pub et ou les vendre plus offrant, hein, pourquoi pas à la NSA notamment. Hein, on
a... Mais apparemment, ils les vendent même pas.
c'est grâce au cadeau.
Oh, mais la NSA doit peut-être fermer les yeux sur l'évasion fiscale.
L'évasion des données.
L'évasion des données, ne sait-on pas. Bon, enfin, bref. Et donc, dans ce souci, en fait, de justement de préserver un peu sa vie privée et de faire en sorte que Google ne regarde pas tout ce que vous faites, il est possible sur vos téléphones Android d'installer des marchés alternatifs. Les plus connus sont, le plus connu est sans doute Slide.me. Vous avez aussi Gadjar qui était installé sur les tablettes Arcos qui ne recevaient pas, je dirais, la certification Google pour pouvoir y installer tout leur package de logiciels dans le Google Play Store. Et on en a décoté un chez Jirol qui propose exclusivement des logiciels libres. Ce petit marché s'appelle F-Droid, F-Droid. Vous faites une recherche.
Et on fait comment pour l'installer ?
Alors, on fait comment pour l'installer ? Alors, c'est justement un petit peu compliqué parce qu'il faut...
aller sur le Play Store et... Non,
non, il ne faut pas aller sur le Play Store. Il faut aller sur le site de F-Droid. Je crois que c'est f-droid.com ou .org, je ne sais plus. Et en même temps, il me suffit de prendre mon téléphone.
.org.
Voilà, f-droid.org. Et le site est en anglais, par contre. Donc, il faut éventuellement comprendre un petit peu l'anglais. Depuis ce site, il faut télécharger un package, un APK. Donc, il y a un paquet logiciel spécifique Android.
Comme si vous téléchargez une application manuelle,
voilà.
En fait.
Ce qui veut dire que sur vos téléphones, il faut activer le fait de pouvoir installer des logiciels ne provenant pas du marché d'applications Google. C'est justement la chose la plus délicate. Il faut trouver naviguer un peu dans les menus, dans les menus du paramètre.
C'est dans les systèmes, dans les paramètres système.
Voilà,
ça n'a pas besoin non plus d'être S-off ou je ne sais quoi.
Non. Et c'est dans les paramètres système. Vous pouvez dire que vous acceptez d'installer des logiciels qui ne proviennent pas du Play Store, donc du marché d'applications Google. Sauf que votre téléphone va vous avertir avec un message qui va justement vous dissuader de le faire en vous disant ça ouvre la porte à
c'est pas bien.
Ah, voilà, c'est pas bien. Ça tue les chats, tue les vieilles, ça va vous violer, vous voler, vous tabasser la nuit.
Et ça mange les licornes.
Et ça mange les licornes.
Est-ce que c'est bien connu que le Play Store de Google est parfaitement sécurisé et exempt de malware.
Exactement ça. À partir de là, vous allez pouvoir installer en fait F-Droid et pour les habitués des marchés d'applications, que ce soit chez Apple, Microsoft ou autres, ou Google, et bien là, pas besoin de se créer un compte pour pouvoir télécharger des applications. Vous avez juste à rechercher l'application qui vous convient. Vous avez l'interface est assez sympa à utiliser. Je peux vous la montrer pour amis gyroliens.
J'essaie de télécharger en même temps.
Voilà.
Sur mon téléphone.
Donc ça marche un peu comme un dépôt sur une distribution Linux.
Exactement.
Quoi.
C'est exactement ça. On met à jour le dépôt. On peut activer. En plus, l'application est bien faite parce qu'elle permet d'activer des dépôts tiers. On peut se rajouter des dépôts. Voilà. Les paquets peuvent être signés par le dépôt. Donc, gage que le logiciel provient bien du dépôt pour lequel on s'est abonné. Alors, je n'ai pour l'instant trouvé qu'un seul dépôt. C'est celui de F-Droid. Il n'y a pas de dépôt tiers. D'activer.
Sachant qu'Android c'est un Linux, donc quelque part c'est un peu le retour.
Pardon, excusez-moi, on ne peut activer que le dépôt F-Droid. Il y en a que j'en connais qu'un.
D'accord.
Donc, alors attendez, je trouve l'application sur mon téléphone pour la montrer. Hop, F-Droid. Voilà, l'application est, enfin le thème de l'application, vous pouvez faire passer. Hein. Le thème graphique de l'application est conforme à ce qui se fait sur Android. C'est un thème holo. Voilà. Par contre, donc voilà, un marché simple à utiliser. Pas besoin de se créer un compte pour pouvoir télécharger. On télécharge des applications puisqu'elles sont gratuites. Les applications sont pour la plupart compilées par l'équipe de F-Droid avec leur signature qui prouve bien que c'est bien qui ont fait qu'il n'y a pas de logiciel malveillant à l'intérieur, sauf quelques-uns pour lesquels ils ne peuvent pas compiler ou c'est un peu compliqué parce qu'il faut beaucoup trop de choses pour pouvoir le compiler. Dans ce cas-là, c'est précisé que c'est un fichier binaire qui provient de l'éditeur du logiciel, du développeur ou des développeurs. Voilà. Petit regret, les descriptions des logiciels sont extrêmement succinctes, donc il vaut mieux savoir ce que l'on cherche sur ce marché avant de l'installer.
Ah
oui, Antoine.
Et est-ce que tu as trouvé des applications qui étaient utiles et que tu n'avais pas trouvé sur le Play Store?
Alors, oui et non. J'ai trouvé des applications, pratiquement toutes les applications qui y sont sur le Play Store d'ailleurs. Là où c'est assez bien fait, c'est que le manque justement de ces descriptifs, on le retrouve par un petit bouton qui permet directement d'aller voir si le logiciel est disponible sur le Play Store pour pouvoir avoir des captures d'écran, parce que l'application manque cruellement de captures d'écran. Moi, j'aime bien avoir une capture d'écran pour voir si le logiciel au niveau esthétique me convient ou pas.
Est-ce que tu as trouvé l'application Radio Girol?
J'ai pas trouvé l'application Radio Girol, mais on peut la soumettre.
Il y a une soumission d'application.
Oui, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a effectivement une soumission d'application. Voilà. Alors moi, si j'ai installé ça, c'est tout simplement parce que comme je l'ai expliqué pendant le sujet, la fermeture de Google Reader, j'ai installé chez moi un Tiny RSS, donc un agrégateur de flux RSS qui me permet de me tenir au courant de tout ce qui se passe sur les sites que je préfère, mes sites préférés sans que pour l'instant j'y aille. Sauf que le logiciel sur le Play Store est payant. Il est libre mais payant, donc ça ne me dérange pas outre mesure de payer un logiciel libre. Il y a une version d'essai de 7 jours et au-delà de 7 jours, il faut payer pour continuer à l'utiliser. Sauf que j'avais pas de carte bleue à ce moment-là, donc je pouvais pas me passer de ce logiciel-là. Donc j'ai cherché un peu ailleurs et là j'ai trouvé qu'effectivement, c'est là que j'ai trouvé F-Droid et qu'il existait une version compilée. Donc sur F-Droid, on retrouve des logiciels libres qui étaient payants avec des restrictions sur le Play. Les qui compilent,
Je suppose que la différence, c'était que sur le Play Store, tu avais un hébergement qui était proposé par Tiny RSS, alors que là, tu devais faire de l'auto-hébergement de tes
clients. Non, pas du tout. C'est une application pour accéder à ton... D'ailleurs, il le spécifie bien, c'est l'application pour accéder à ton Tiny RSS.
D'accord. Donc, ça, voilà. Il faut déjà que tu aies un serveur.
D'ailleurs, il le précise dans l'application, il faut déjà avoir un hébergement, ils ont un serveur, une instance de Tiny RSS qui tourne. Vous pouvez maintenant, d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, n'oubliez pas, framanews.org, vous pouvez avoir votre hébergement Tiny RSS facilement sur un hébergement mutualisé offert par Framasoft. Voilà. Et au final, je me suis dit que c'était pas plus mal. Du coup, j'ai viré Firefox du Play Store. J'ai installé la version proposée par F-Droid. J'ai enlevé tous les logiciels qui étaient disponibles en version libre compilée par F-Droid. Je les ai enlevés. J'ai installé les versions F-Droid. J'ai enlevé les versions Play Store pour installer les versions Android parce que je me suis dit au fond que c'était pas plus mal que Google ne soit pas trop au courant des applications que j'installe. Au final, moins Google sait de choses sur nous, mieux c'est.
Surtout en ce moment.
Par contre, effectivement, tout n'est pas rose. Comme je vous ai dit déjà, il y a très peu de descriptions. Il n'y a pas de capture d'écran. C'est quand même. Je trouve ça assez gênant. Il affiche quand même les permissions demandées par les logiciels. Et autre fait qui pour moi est un peu gênant, c'est qu'on a pour certains logiciels, on n'a pas les dernières versions sorties. On a parfois même jusqu'à 6 mois de retard sur les versions. Qui sont disponibles sur le Play Store. C'est le cas notamment avec un gestionnaire de fichiers que j'utilise pas mal, qui est Ghost. Non, je me rappelle plus son nom. Je vais trouver ça tout.
Ça veut dire que c'est quoi? C'est le développeur qui met l'application disponible sur F-Droid?
Non.
Ou c'est F-Droid qui va chercher le.
C'est F-Droid qui va chercher l'application et qui la compile. C'est pour ça qu'il y a quelques retards.
Oui, c'est du travail quand même.
C'est Ghost Commander l'application.
Mais c'est les gens de la Free Software Foundation Europe hein, qui font le travail, donc ils sont pas non plus très très nombreux.
C'est ça. Donc oui, voilà. Là, par exemple, Ghost Commander, il y a une version qui est sortie là il y a très peu de temps, et la version disponible sur F-Droid date du mois de mars, de fin mars de cette année. Donc on a déjà deux bons mois, de retard. Donc ça, c'est un point relativement négatif. Après, j'ai pesé le pour et le contre, et in fine, je préfère avoir une application libre compilé par un dépôt libre qui n'a, pour lequel je ne suis pas tracé, fliqué, plutôt qu'installer exactement la toute dernière version, mais avec laquelle je suis fliqué par Google. Donc c'est mon point de vue personnel.
Mais rien ne te garantit que même en faisant comme ça, il te flique pas.
Alors, j'utilise Cyanogen déjà sur mon téléphone.
Ça aide.
Voilà, Cyanogen, qui pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, est une version communautaire d'Android développée à partir des sources et dans laquelle ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités relativement intéressantes. Je vous invite à aller sur cyanogenmod.com, je crois.
Point org. Ah bon. Voilà, bah, il y a les deux maintenant, je crois qu'ils ont récupéré.
Ils ont eu du cyber-squatting, ils ont récupéré les deux. Donc je vous invite à aller voir, même sur du matériel de Nexus, j'ai un Nexus 4 et une Nexus 7, je préfère installer CyanogenMod qui propose plus d'options déjà dans la personnalisation de son système et qui en même temps est beaucoup plus légère, notamment que les ROM Samsung. Oui. N'est-ce pas Antoine? Tant au niveau taille, quand on voit que maintenant le Galaxy S4, c'est de 3 ou 4 gigas de système d'exploitation, alors qu'une CyanogenMod, ça fait 100, 160 mégaoctets.
Ça fait penser à un système propriétaire très connu.
Exactement.
Sur PC.
Ouais, et qui, sur tablette, prend la moitié des 64 gigas de la mémoire disponible. Donc voilà, donc je vous invite tous à tester F-Droid, ça n'engage à rien, c'est libre, c'est donc gratuit, voilà.
Installé chez moi.
Voilà, c'est installé. Alors ça m'empêchera pas de faire un petit don au créateur de TinyTinyRSS de à peu près 5€, c'est à peu près deux fois ce qu'il demande sur le Play Store pour son application, pour l'encourager à continuer, parce que ça reste un outil qui est mis à jour très souvent.
Oui, c'est un utilité qui te sert au quotidien.
Ça me sert au quotidien, ça me permet de lire directement les news, mais directement les informations sorties de mes sites favoris, directement sur mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur, et tout en étant synchronisé. Un article que j'ai lu sur un de mes appareils sera marqué comme lu sur les autres. Et ça, c'est quand même relativement pratique. C'est un gain de temps relativement appréciable. Donc voilà, si vous avez d'autres questions.
Bon, on va tester, puis on en reparlera.
On fera peut-être un petit point lors de notre radio install party.
Éventuellement, oui. D'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu, je pense, parce qu'il nous reste quelques minutes.
Exactement. Donc, je rappelle les dates. C'est le samedi 29 juin.
Oui, non, parce qu'on ne fait pas toute une semaine ou tout un week-end comme à Paris. Enfin, je ne sais pas comment il faut là-bas.
Alors, c'est à partir de 10h le matin avec un café pour ceux qui se lèvent le plus tôt et qui viennent nous voir dès le matin.
Ça ne sera pas moi.
C'est pas grave, on t'en voudra pas.
C'est 5h30 le matin pour le café.
C'est ça, voilà, à peu près. Ouais.
Donc, il y en a peut-être d'autres que moi qui peuvent en parler de cette J-Roll party, puisque c'est plus vraiment une install party. On fait plus trop d'installations en fait. Hein.
Il y a plusieurs distributions qu'on peut installer.
Voilà, c'est plus du tout Ubuntu comme à un moment. Maintenant, ça commence à se diversifier avec des gens qui ont Debian, Arch Linux, Fedora, Linux Mint, etc. Et puis maintenant, l'intérêt c'est aussi pas mal de gens qui font des ateliers, des conférences où chacun peut venir avec une idée, avec quelque chose à présenter et le montrer aux autres ou venir rechercher un renseignement sur quelque chose de précis, que ce soit du dessin sous Linux, l'illustration sous Linux ou plus la ligne de commande ou plus de l'installation, etc.
Voilà. En fait, on tend vers quelque chose qui s'approche du Barcamp qui a été annulé cette année, à notre grand regret.
Il a été annulé finalement.
Au dernier moment, deux jours avant.
Donc voilà, il y a déjà un petit programme qui s'est dessiné sur notre Etherpad. Alors il y a quoi ? Il y a l'accessibilité web qui a été évoquée par Edouard et Thomas.
Voilà, exactement. Mais en fait, on m'a appris il y a pas très longtemps que donc on devait contacter Elisolim pour nous parler de l'accessibilité web. Et en fait, Elisolim sera bien là et il nous parlera des méthodes OpQuest, méthodes open source par rapport à l'accessibilité. Ah, j'ai du mal au
choix.
Accessibilité web, voilà, exactement.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Donc il sera présent, je vous invite à aller le voir, c'est quelqu'un de très intéressant et les méthodes OpQuest sont très intéressantes aussi.
Exactement, il y a un site, je crois, opquest.com, ils font des extensions, non, me semble-t-il, pour Firefox.
OpQuest.com, voilà. OpQuest.
Il va avoir Antoine, tu nous referas un petit quelque chose autour d'Internet. Antoine. Il veut pas parler à la radio aujourd'hui. Il veut juste écouter.
Il a dit oui.
Voilà, il y aura quoi encore
Alors il y aura un... y a des jeux, je crois. Non, il n'y a pas un atelier aux jeux.
On va avoir des jeux. Il y a beaucoup de joueurs chez Girol, donc je pense qu'on aura des choses avec des jeux qui sont pas forcément libres. Hein. On n'est pas tous.
Pas obsédé, mais
des jeux qui tournent sous notre Linux favori.
Voilà.
On aura un atelier, ça sera toi, nous, sur comment marche Radio Girol.
Ça sera nous, quoi.
Ouais, ça sera vous. Moi, je vais proposer de faire un petit truc autour de l'auto-hébergement, parce que justement, on en a parlé, se passer de Google. Très simplement, le principe, c'est justement parler de mon expérience avec un NAS Synology sur lequel j'ai installé mes sauvegardes, mais aussi tout un tas de services qui me permet de me passer au quotidien de Google pour des choses aussi simples et futiles que le calendrier, les contacts, les liens, les flux RSS et tout ça.
Franchement, ça vaut le coup et c'est très intéressant. Ça va intéresser beaucoup de gens.
J'espère.
Oui, je pense aussi.
Il y a un autre atelier sur les sites web de moyenne et de petite et moyenne envergure. Donc, comment faire son site internet ou comment trouver des outils ou des gens qui peuvent vous aider. Il y aura bien entendu, on espère, nos amis du Labix qui vont proposer des trucs et des bidouilles.
Faudrait juste penser à les contacter.
C'est ça.
Mais bon,
voilà, c'est tout.
Mais je sais pas s'ils
sont
toujours...
Coucou Labix, si vous écoutez, on sait jamais.
C'est le Labix qui est le hacklab de Bordeaux. Il y aura Radio Girol, ça c'est évident.
Il y aura peut-être un concert, mais il faudrait que
Isa s'en charge.
C'est ça.
Donc voilà.
J'ai une idée.
Donc, on rappelle les dates. Le 24... Le 29, à partir de 10h le matin, au centre d'animation Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'est rue du Mulet, au 4. C'est juste entre le cinéma Utopia et un truc agitateur de curiosité qui agite rien du tout, si ce n'est le gouvernement.
Voilà, et donc c'est juste derrière, hein, c'est pas...
Et il s'agit du 29 juin.
Ouais.
Je tiens à préciser pour les podcasts.
Juillet, ouais. Pas...
2013,
voilà, c'est ça.
Exactement. Donc voilà, vous avez écouté Radio Girol. Merci à tous. On va vous souhaiter à tous une bonne soirée et on va vous rendre votre Oxy Radio habituel.
Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Au revoir.
Ciao, ciao.
Radio Girol, il est 20h09. On est le mardi 11 juin. Pour vérifier que ça